Professeur Patrick Vink, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de publier un rapport intitulé « À la recherche d'une paix durable en RDC ». Dans quelle région de la RDC avez-vous mené cette étude? Quand et sur quel échantillon exactement?
L'étude en fait a été conduite dans l'Est, donc dans les deux provinces de Kivu, le Nord Kivu, le Sud Kivu, et dans le district de l'Ituri également. L'étude a porté sur plus de 5000 personnes. On a interrogé 5166 personnes exactement. Qui ont été choisis tout à fait au hasard dans ces trois régions pour représenter les vues de la population et avoir un échantillon qui soit statistiquement, scientifiquement valide. Nous avons collecté les données en 5 semaines entre novembre et décembre 2013.
Et pourquoi la CPI n'a pas d'impact sur la paix et la sécurité en RDC, selon vous?
Je pense que dire que la CPI n'a pas d'impact n'est pas forcément ce que nous trouvons ici. Ce qu'on trouve, c'est que la population n'est pas forcément au courant de l'impact que la CPI peut avoir. Donc l'étude examinait, si vous voulez, les attitudes, la perception de la population envers la paix, la justice et la reconstruction. Et la CPI était un des éléments. Ce dont on se rend compte de façon générale, c'est que la population est peu informée, que ce soit de la CPI, mais aussi la MONUSCO, les efforts envers la paix. Même les actions du gouvernement, il y a peu d'informations qui circulent dans l'Est, et donc forcément ça affecte la façon dont les populations perçoivent ces différents acteurs.
Est-ce que nous pouvons dire que la CPI est mal comprise par cette partie des populations de l'Est de la RDC, ou bien elle n'est pas à la hauteur de leurs attentes?
Je pense qu'un peu des deux. Il y a certainement un problème de connaissance. On voit des améliorations très importantes. En 2008, nous avions fait une étude similaire, et à peu près un quart de la population avait entendu parler de la CPI. Aujourd'hui, on est à plus de 50%. En Ituri même, on est à 60%. Donc, il y a déjà une connaissance qui s'est améliorée, mais il reste encore évidemment beaucoup à faire. Et malgré le fait que les gens puissent en avoir entendu parler, il y a une certaine méconnaissance du mandat de la CPI, des limites de son travail. Donc, certainement, ça affecte la façon dont les gens ont des attentes ou peuvent percevoir la Cour. En même temps, il est certain que la Cour a un mandat limité, que le nombre de cas qui puissent y être jugés ne sera jamais à la hauteur des attentes de la population. Et donc, un des éléments que nous avons trouvé, c'est aussi le besoin vraiment pour la Cour de travailler avec la justice congolaise pour assurer qu'il y ait une justice pour les crimes qui ont été commis dans l'Est.
Est-ce que cela ne relance pas la question de création des tribunaux mixtes, les chambres mixtes spécialisées où siégeraient les magistrats étrangers aux côtés des juges congolais, comme l'avait souhaité en son temps le rapport Mapping?
Bien sûr, c'est une question qui reste, je pense, d'actualité. Il est certain qu'il y a de la place pour un tel processus, qu'il y a besoin que la justice avance et que si ça permet que ce soit le cas, c'est une option qui doit être poursuivie. En même temps, ça reste une option limitée. Que ce soit un tribunal international à l'extérieur comme la CPI, que ce soit des cours mixtes à l'intérieur du Congo, ce sont toujours des cours qui auront un mandat limité dans le temps et qui ne pourront servir qu'un certain nombre de procès. Il y a besoin d'un travail de fond pour que la justice congolaise ait l'indépendance et les capacités de juger dans le long terme les cas de violence dans le Congo en général et évidemment particulièrement dans l'Est du Congo, où les crimes sont extrêmement sérieux, constituent des violations du droit international.
Dans votre rapport, vos enquêtés pensent que la justice congolaise est gangrénée par la corruption. Il y a le problème des rémunérations des magistrats. Est-ce que cette justice inspire-t-elle encore confiance?
La question est-ce que les gens ont confiance dans ce système? Et c'est clair que ce n'est pas le cas. Quand on demande de façon ouverte qu'est-ce que les gens pensent du système judiciaire formel, il est corrompu, il faut payer pour avoir 5 cas, c'est la justice des riches, voilà le type de réponse qu'on obtient. Est-ce qu'il faut payer pour avoir son cas? Oui. Donc il y a un certain nombre de problèmes qui sont très clairement établis, que la population perçoit et n'a pas confiance. Alors il y a des efforts importants qui sont faits aujourd'hui pour essayer d'améliorer l'accès à la justice formelle au sein de la population. Mais améliorer l'accès, ça ne devrait pas seulement être construire des tribunaux de paix ou autres décentralisés, mais aussi travailler sur la perception et sur la qualité des services. Or aujourd'hui dans l'Est, par exemple, un grand nombre de personnels qui est affecté à ces tribunaux ne sont pas payés. Ils ne sont pas mécanisés, donc ça veut dire que forcément, ils n'ont pas les moyens et ils doivent dépendre de moyens, je dirais, plus ou moins illégaux pour arriver à assurer leur service, ce qui n'est pas approprié.
En définitive, vos enquêtés proposent l'organisation d'un dialogue interethnique avec les groupes armés pour résorber le problème de sécurité et de paix qui se pose dans l'Est de la RDC. Pensez-vous que cela est possible? Et vous-même, vous proposez quelle alternative?
Alors, on voit des progrès très importants dans l'Est. On voit des améliorations en termes de sécurité par rapport à l'étude de 2008 que nous avions fait, mais même par rapport à l'année passée, on voit qu'un grand grand nombre, plus de la moitié des gens, jugent leur sécurité comme étant meilleure aujourd'hui qu'elle ne l'était par le passé. Ça ne veut pas dire que la situation soit parfaite. De même, en matière de relations sociales, par exemple, les gens, la majorité des personnes décrivent une amélioration en termes de relations sociales, en termes de relations interethniques, intercommunautaires. Donc ça montre que c'est possible, qu'on peut dépasser les divisions ethniques qui ont plagué la zone pendant des années, qui ont causé beaucoup de conflits. Ça ne veut pas dire que ça va tout résoudre, mais c'est possible. Et donc certainement, renforcer ces dialogues intercommunautaires continue à être une priorité qui doit être prise en compte. Alors, établir la paix, c'est quelque chose évidemment de très difficile. Et un des éléments qui fait partie de ce processus, c'est de rétablir la confiance entre le gouvernement et la population. Et je dirais que s'il y a une zone ou un élément, un aspect pour lequel il faut faire des progrès encore plus importants, c'est dans cet aspect-là, surtout entre la relation entre le gouvernement national et la population dans l'Est, où en fait on voit une perte de confiance par rapport à 2008, où beaucoup moins de personnes se sentent persuadées que le gouvernement national travaille dans leur intérêt.
Vous recherchez cette paix durable en RDC. On espère qu'elle viendra un jour. Pourquoi avez-vous pris cette initiative de réaliser cette étude?
Je peux vous garantir une chose, c'est qu'elle ne viendra pas d'ailleurs, elle viendra des Congolais. Et donc c'est très important que ce soit un processus qui soit national et que ça reflète les besoins et les attentes de la population. C'est cette idée-là qui fait que nous avons choisi de faire cette étude. On voit qu'il y a des dynamiques, que certaines personnes veulent voir certaines mesures, d'autres veulent voir leur opposé, certains veulent voir des pardons et des amnesties, d'autres veulent voir des punitions et des jugements. Donc comment réconcilier tout ça? Je pense qu'on ne peut le faire qu'en établissant un dialogue, et un dialogue informé par des données, des informations valides, scientifiques.
Je vous remercie.
Un grand merci à vous.